Nous voulons poursuivre notre méditation sur l'exemple d'Abraham. On a vu dans la partie précédente que nous avons besoin d'être certains que nous avons traversé et que nous répétons le processus de la conversion. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que pour le chrétien qui a un nouvel esprit, qui a l'esprit de Dieu en lui, il existe alors une lutte intérieure. Une lutte intérieure où la volonté de Dieu se voit confrontée au désir de la chair et il y a ce conflit perpétuel de va-et-vient d'un désir de vouloir faire le bien, mais d'une impulsion pour le mal qui est extrêmement forte. Et on a vu que cette lutte intérieure s'est aussi révélée dans la vie d'Abraham, que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Et celui-ci a cru aux promesses de Dieu. Mais plus tard, par les stratagèmes de l'ennemi et à travers le désir ardent de sa femme Saraï, il s'est détourné en quelque sorte et a suivi un sentier qui n'était pas le sentier que Dieu avait désigné pour lui. On a vu que il a pris Agar pour sa femme et a eu un enfant d'elle dans une situation de polygamie qui était clairement pour lui-même contraire à la volonté déclarée de Dieu. Parce que dans Genèse, on lit que Abraham a obéi à mes commandements. C'est-à-dire que Abraham connaissait les commandements de Dieu. Et l'un des commandements, c'est « Tu ne commettras point adultère. » Donc, il y a cet aspect triste dans l'expérience d'Abraham, mais qui est un élément pour que nous en prenions des leçons. Et Dieu écrit ces choses qui sont les échecs des enfants de Dieu, non pas pour les culpabiliser car ils sont morts, mais pour que nous en tirions des leçons et que nous fassions pas les fautes qu'ils ont eux-mêmes commises. Donc nous ne pouvons pas nous tenir là et pointer du doigt. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'être véritablement, pas simplement des auditeurs, mais des personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu dans nos vies personnelles. Et donc, quand on regarde en arrière vers l'expérience qu'Abraham a faite et la foi qu'il a manifestée quand il a cru que Dieu lui donnerait bel et bien une postérité quand bien même sa femme Saraï était stérile, quand l'on voit la foi qu'il a manifestée, cela nous dirige vers le livre d'Hébreux, chapitre 11, en commençant par le verset 1. Et nous y lisons « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. » car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que les mondes ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. C'est la définition biblique de la foi. La foi, c'est non seulement la ferme attente des choses qu'on espère, mais également la démonstration même de ces choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire que la foi perçoit et accepte les choses que les yeux ne peuvent pas discerner, voir. C'est cela la foi. Et par cette foi, nous savons que les mondes, c'est de cette manière que cela nous est donné dans la Bible King James, que les mondes ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Et par la foi en quoi? Par la foi en la parole. Parce que dans Genèse 1, nous avons un récit de la création de notre système solaire et de notre galaxie. Et nous lisons et nous croyons et notre foi nous est imputée à justice. Nous croyons que cela est vrai et non seulement cela, mais nous lisons que Dieu a donné son Fils pour nous racheter et nous croyons et nous acceptons et par cette foi vivante, cela nous est imputé à justice. Nous recevons la justification. C'est le béaba de la foi. Et en prenant cela en compte, on arrive au verset 8, qui est comme un rappel à notre étude précédente. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Abraham acceptait et fixait son attention et son attente sur des choses qu'il ne pouvait pas voir, mais que Dieu avait promises. Il avait, par sa foi, la démonstration intérieure, l'assurance intérieure que ces choses qu'il ne voyait pas lui parviendraient, qu'il les atteindrait, et il attendait, comme dans une terre étrangère, la cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. La cité de Dieu. Il n'attendait aucune cité terrestre, aucune Jérusalem terrestre, rien de tout cela. Il attendait la cité de Dieu, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Pas une cité dont les sionistes sont les architectes et les fondateurs. Rien de cela. Rien. Il attendait celle qu'on ne voit pas et dont on ne peut pas jouir par les sens charnels. Celle qui est promise à ceux qui sont de la foi. Et maintenant, cela nous amène à la suite de ce que nous avons vu précédemment au verset 11. Par la foi aussi, Sarah, reçut la vertu de concevoir et, malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est donc là, encore une fois, un autre aspect de la foi vivante, c'est pour que cette foi soit réellement active, il me faut croire que celui-là même qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Et fidèle comment ? Fidèle en ce qu'il n'oublie pas ce qu'il promet. Fidèle en ce qu'il a un amour à l'intérieur de lui qui rend impossible pour lui d'être infidèle. Non pas qu'il ne peut pas, mais parce que son caractère est tel qu'il ne voudrait jamais se montrer infidèle à sa propre promesse. Ce n'est pas dans sa nature. Et vous notez, vous remarquerez qu'il est écrit que par la foi, Sarah reçut la vertu de concevoir et malgré son âge, enfanta. Parce que elle crut à la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Donc Abraham n'est pas ici mentionné pour une raison simple, c'est que Abraham a échoué à ce test-là. C'est Sarah qui a réussi. Il a réussi au début, Abraham, mais ensuite, il a eu Ismaël avec Agar. Et il a dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre devant toi. » Et donc, dans cette condition des choses, il s'est présenté à Abraham une nouvelle expérience. Parce que vu que Abraham n'a pas réussi à l'épreuve, la première épreuve qui était d'attendre, par la foi, qui est une ferme attente des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, parce qu'il n'a pas réussi à cela, maintenant, une autre épreuve se présenterait à lui. On le trouve dans Genèse, chapitre 22. Et quand nous lisons ça, c'est important que nous examinions notre propre condition spirituelle et notre situation, la manière dont nous réagissons aux promesses de Dieu, aux épreuves et aux promesses qu'il nous fait dans nos épreuves. Et pour que nous puissions comprendre, à la vue de la leçon qui nous est donnée dans la vie d'Abraham, là où il nous reste encore à être rendu parfait dans certaines choses où nous avons peut-être échoué dans le passé. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham et il lui dit. Abraham, il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. C'est le moment solennel dans la vie d'Abraham. Et c'est là qu'il nous faut être tout oui. Parce que Abraham rencontrait ici une épreuve de sa foi qu'aucun être humain n'a jamais rencontrée. Et l'esprit de prophétie nous donne le récit ainsi que les explications et les élargissements de cette situation dans laquelle Abraham s'est trouvé. Et c'est cela que nous voulons lire maintenant dans Patriarches et Prophètes à la page 127, paragraphe 2, pour commencer. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures. Mais sa foi n'avait pas été parfaite. Elle avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme, ainsi que lors de son mariage avec Agar. Aussi, pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve, la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Et donc après, ça nous parle de ce que nous venons de lire, là où Dieu lui a paru et lui a demandé d'offrir Isaac en holocauste. Nous continuons, paragraphe suivant. Dans la vigueur de l'âge mûr, l'homme peut affronter des épreuves et des douleurs qu'il ne saurait supporter à un âge plus avancé, alors que, chancelant, il descend vers la tombe. Dans sa jeunesse, Abraham s'était fait un jeu de subir des privations et de braver le danger. Mais l'ardeur de sa jeunesse avait disparu à l'époque où il reçut cette injonction inouïe. Il avait atteint l'âge de 120 ans. Il était donc, même pour l'époque où il vivait, un vieillard. Néanmoins, Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le moment où, courbé sous le poids des ans, rassasié de labeur et de soucis, le patriarche soupirait après le repos. Donc, pour Abraham, c'était comme la fin de la route. Et il s'apprêtait à se reposer. Isaac, il l'avait reçu. Il estimait que sa vie était à jamais changée, que sa satisfaction était arrivée et que l'aube d'un nouveau jour se levait. Nous continuons. Il a toute cette richesse. Les plaines qui s'étendaient autour de son camp étaient couvertes des milliers de têtes de son gros et de son menu bétail et parsemées des tentes de ses bergers et de ses fidèles serviteurs qui se comptaient par centaines. Le fils de la promesse qui avait grandi aux côtés de son père était devenu un jeune homme. Le ciel avait enfin couronné de bienfaits cette longue vie de sacrifice, d'attente patiente et d'espoir différé. Pour obéir au Seigneur, Abraham avait dit un adieu éternel au sol natal et au sépulcre de ses pères. Il avait erré en étranger dans le pays qui devait lui échoir et longtemps soupiré après la naissance de l'héritier promis. Sur un ordre d'en haut, il avait banni de son foyer son fils Ismaël, et maintenant que l'enfant tant désiré est arrivé à une belle adolescence, et que le patriarche commence à entrevoir le fruit de ses espérances, il entend, glacé d'horreur, une voix qui lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste. » La croix. La croix vient assombrir l'expérience d'Abraham. La croix avec toute son ignominie et son horreur. Nous continuons. Isaac était non seulement le rayon de soleil de son père, la consolation de sa vieillesse, mais par-dessus tout, l'héritier de la promesse. Ce fils dont la perte par accident ou par une maladie eut déchiré le cœur d'Abraham et fait pencher sa tête blanchie, ce fils, il lui est ordonné d'aller l'immoler de sa propre main. Cet ordre lui paraît tout d'abord épouvantable et impossible. Et, écoutez bien attentivement, et Satan s'empresse de lui suggérer qu'il est victime d'une illusion. Puisque la loi divine lui dit « Tu ne tueras point » et que Dieu ne peut exiger ce qu'il a défendu. Ouh. Vous savez, frères et sœurs, il y a des tentations que l'on peut discerner plus ou moins aisément. Toutes les tentations sont des subterfuges de l'ennemi et ont tendance à nous faire chavirer dans notre foi et notre obéissance, mais la parole de Dieu nous donne, si nous la considérons attentivement, des réponses qui nous permettent de nous frayer un chemin à travers les tromperies de l'ennemi. Donc il y a beaucoup de tentations qui, pour lesquelles la parole de Dieu elle-même nous donne des réponses claires et pour lesquelles la parole de Dieu intervient dans nos vies en illuminant nos esprits et nous aidant à discerner le bien et le mal. Mais là, en ces derniers jours, comme dans l'expérience d'Abraham, il arrive que des tentations soient si fortes et si bien calculées par l'ennemi des âmes qu'elles semblent à toute notre intelligence innée, ou autrement dit notre intelligence charnelle, il arrive que ces tentations, que les requêtes de Dieu soient pour nous une impossibilité et qu'elles nous semblent une illusion. Et les tentations de l'ennemi sont si fortes que nous serions tentés de les accepter comme la seule issue valable et cohérente à la vue de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui fait que la chose que Dieu nous appelle à sacrifier, il l'a autre part dans sa parole approuvée. Et la chose que l'ennemi nous appelle à chercher, Dieu est en réalité en train de tenter de conquérir notre cœur pour que nous puissions la lâcher et l'abandonner. C'était l'expérience d'Abraham. Dieu lui disait de mettre fin au jour d'Isaac, de sacrifier l'enfant de la promesse qui était devenu son trésor. Parce que rappelons-nous que dans Genèse chapitre 15 au verset 1, Dieu avait tout d'abord promis à Abraham, je suis ton bouclier, et non pas cela, non pas simplement ça, mais je suis ta très grande récompense. Qu'est-ce que cela nous dit? Abraham avait l'impression que Isaac était sa très grande récompense. Isaac était devenu son trésor. Et maintenant, Dieu se présente à Abraham et l'éprouve. Il met à l'épreuve son cœur pour savoir où est le cœur d'Abraham. Nous continuons à la page 128, paragraphe 3. Le patriarche sort de sa tente et contemple la paisible clarté d'un firmament sans nuages. Il se rappelle la promesse qui lui a été faite près de 50 ans plus tôt, selon laquelle sa postérité sera innombrable comme les étoiles. Or, cette promesse doit être accomplie en Isaac. Comment se résoudre à le mettre à mort. Abraham est plongé dans une agonie de raisonnement dont il ne peut faire sens. Dieu lui a promis que sa postérité sera innombrable comme les étoiles. Il lui a promis que cette postérité lui serait donnée par Isaac. Et maintenant, il lui commande de sacrifier Isaac. Nous continuons. Abraham est tenté de croire qu'il est en effet victime d'une hallucination. D'une hallucination. Est-ce possible que la volonté de Dieu soit si perçante que nous soyons tentés de croire que nous sommes victimes d'une hallucination? C'est essentiel pour nous d'examiner nos cœurs alors que nous examinons la parole de Dieu. Nous voulons être certains. Nous ne sommes pas satisfaits de peut-être, d'une assurance incertaine. Il nous faut être certains, au fin fond de notre être, que notre cœur est donné entièrement à Dieu avec toutes ses affections. Et c'était le dessein qu'avait Dieu pour Abraham dans cette épreuve. Dans sa perplexité et son angoisse, il se courbe sur le sol et prie comme il n'a jamais prié. Il demande à Dieu s'il doit accomplir cette horrible mission de lui donner une confirmation quelconque de cet ordre. Ça paraît tellement impossible que Abraham supplie Dieu de vérifier ce qu'il lui a dit. Il prie comme il n'a jamais prié. Il prie d'une telle manière que toutes ses prières du passé sont comme rien du tout, comme il n'a jamais prié. Toute sa vie, toute son attente, son espérance, son cœur ne tient qu'à un fil. On continue. Songeant aux anges qui lui ont été envoyés pour lui révéler le sort de Sodome et lui ont annoncé la naissance de ce fils, il se rend sur les lieux où il a plusieurs fois rencontré les messagers célestes, espérant les y rencontrer et recevoir d'eux des instructions plus complètes. Est-ce que vous pouvez ressentir le sentiment abject de désespoir mêlé à la confusion qui se trouve ici dans le cœur d'Abraham? Mais aucun de ces anges ne vient soulager son cœur. Dans les ténèbres dont son esprit semble enveloppé, seul l'ordre terrible retentit à ses oreilles. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. L'injonction est donc péremptoire. D'ailleurs, le jour approche. Il faut partir. Abraham n'ose plus tarder. Ensuite, il retourne dans sa tente Et il voit Isaac qui dort profondément. On lit, le père contemple un instant le visage chéri de son fils, puis il s'en détourne en frémissant et regarde Sarah endormie. La réveillera-t-il pour lui permettre d'embrasser son enfant encore une fois? Lui communiquera-t-il l'ordre d'en haut? Et il conclut que non, il ne va pas le faire. Parce que qui ne sait si elle ne va pas s'opposer à l'obéissance. Ensuite, Abraham réveille Isaac. Il lui dit qu'il a reçu l'ordre d'aller offrir un sacrifice sur une montagne éloignée. Et Isaac, il obéit. Ils font les préparations et ils partent. Page 129, paragraphe 3, nous lisons. Silencieux, ils marchent côte à côte. Le patriarche qui médite son redoutable secret n'est guère disposé à converser. Il pense à la mère aimante et fière. Il se représente le jour où il rentrera seul au foyer. Et il ne se dissimule nullement la souffrance qui sera celle de sa compagne. Cette journée, la plus longue qu'Abraham ait vécue, tire lentement vers sa fin. Vous savez, il est des expériences dans la vie des enfants de Dieu en ces derniers jours, qui semblent ne tirer que lentement à la fin, vers leur fin. Des jours, des expériences qui sont les plus longues jamais vécues, qui semblent ne pas se terminer. Le sacrifice requis est si grand et important. C'est pour ça que je prends le temps, nous prenons le temps ici de considérer l'expérience d'Abraham donnée par l'esprit de prophétie pour que nous puissions absorber la pensée de Dieu dans cette épreuve à laquelle il a soumis Abraham et à laquelle il va soumettre ses enfants qui, en ces derniers jours, acceptent d'être châtiés et éprouvés. Nous continuons. Tandis qu'Isaac et les jeunes gens se livrent au sommeil, l'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. Il se peut qu'on soit là et on supplie le Seigneur, et on ne comprend pas et nous attendons que Dieu vienne mettre fin avant même que nous ayons consumé le sacrifice. Mais non. Il ne voit venir personne. Il attend en vain. Je continue. Une seconde journée interminable. Une seconde nuit de douleur et de prière s'écoule. Seul continue à retentir à son oreille la parole qui doit le laisser sans héritier. C'est tout ce qu'il entend. C'est tout ce qu'il entend. La seule parole qui se présente à lui, c'est celle qui l'appelle au sacrifice. Et pas à n'importe quel sacrifice, au sacrifice de ce qui lui est le plus cher sur la terre. Le plus cher. Qu'est-ce qui vous est le plus cher? Qu'est-ce qui m'est le plus cher? Abraham a été appelé à sacrifier cela. En échange, Satan ne se fait pas faute de lui insuffler le doute et la résistance, tentation que le vieillard repousse avec fermeté. Donc quand l'ennemi insuffle le doute et la résistance, il nous faut repousser avec fermeté ces tentations. Le doute et la résistance ne doivent pas être chéris par nous. Nous ne devons en aucun cas les nourrir. Il nous faut continuer cette route des 3 jours. Au matin de la 3e journée, comme ils se mettent en route, le patriarche, regardant vers le nord, aperçoit le signe qui lui a été promis. Une nuée de gloire suspendue au-dessus de la montagne de Moridja l'assure que c'est bien du ciel que vient la mission dont il est chargé. Donc Abraham voulait une confirmation, mais la confirmation de cet appel au sacrifice que Dieu lui faisait ne lui est venue que lorsque il était déjà en train de faire le sacrifice. Dieu voulait éprouver sa foi tout d'abord, sans ne rien donner d'autre que cet appel clair et net au sacrifice qu'il lui a fait au tout départ, dans Genèse chapitre 22, verset 1. Et maintenant, il y a un aspect qu'on veut considérer. Parce qu'il y a une autre activité qui s'est maintenant déclenchée dans la pensée d'Abraham et dont nous voulons tirer une leçon pour qu'elle puisse aussi pénétrer notre propre cœur et animer nos méditations intérieures lorsque nous sommes sur le chemin de Moridja, pour ainsi dire, lorsque nous sommes en train d'endurer les douleurs d'un sacrifice comme aucun autre sacrifice ne nous a été requis auparavant. On le trouve dans Patriarches et Prophètes, page 130, paragraphe 1. Encore à ce moment-là, loin de murmurer contre Dieu, Abraham s'encourage en pensant à la bonté et à la fidélité de son Créateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'encourage. Abraham s'encourage en réfléchissant, en se rappelant, en méditant sur la bonté, l'amour, la fidélité du Dieu qu'il adore et qu'il a appelé à faire un si grand sacrifice. On continue. Ce fils chéri qui a été de sa part un don inattendu, n'a-t-il pas le droit de le lui reprendre? D'ailleurs, il y a une promesse qui lui dit, c'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Postérité nombreuse comme les grains de sable du rivage. Or, Isaac est l'enfant du miracle. Il se rappelle. Il est en train de faire tourner dans son âme les bénédictions passées de Dieu. Il les digère. Il les regarde sur tous leurs aspects comme l'on examine attentivement un diamant. Il y voit la gloire, l'amour de Dieu, la beauté de sa création, les promesses accomplies et vérifiées. Et il se dit, qui suis-je pour lui refuser ce qu'il a lui-même promis de me donner alors que je ne mérite nullement aucune de ces choses? Qui suis-je? Vais-je lui refuser de reprendre ce que je croyais qu'il m'avait donné ou ce qu'il m'a donné? Non. Isaac est l'enfant du miracle. Celui qui lui a donné la vie ne pourrait-il pas la lui rendre? Donc là, les pensées d'Abraham à travers cette épreuve agonisante ont été élevées vers des réalités exaltées et spirituelles. Il a commencé à méditer des choses qui n'avait peut-être pas tant occupé ses méditations et ses pensées auparavant. Parce qu'il avait toutes les richesses, il était tant béni, après toute une vie de longues attentes et d'espoirs différés, il avait maintenant, ou du moins il lui semblait, avoir tout ce qu'il aurait pu désirer. Isaac était là, et toutes ses bénédictions l'empêchaient de voir quelque chose qu'il avait besoin de voir, de contempler, de méditer et de désirer pour que ses attentes, il les place de nouveau vers quelque chose d'invisible. Dieu lui donne toute chose. Il a même Isaac, le fils de la promesse. Et maintenant que Isaac est sous ses yeux, qu'il peut le dévorer, pour ainsi dire, de ses yeux, en satisfaisant son désir intérieur d'avoir une postérité, qu'il peut se satisfaire de la joie d'avoir un fils qui est la volonté de Dieu même, du Dieu Tout-Puissant. Alors que tout cela est entre ses mains, qu'il peut les toucher, les saisir, les appréhender, leur parler. Dieu lui propose et l'appelle à une expérience qui lui fera ressentir son besoin et qui fera naître en lui un désir des choses éternelles. Dieu suscitait en Abraham des affections nouvelles par une épreuve cruelle, une épreuve de mort. Comme l'apôtre Paul, Abraham devait maintenant mourir. C'était une mort pour lui de donner Isaac, de sacrifier Isaac. De telle sorte que Isaac ne serait plus de verser le sang d'Isaac. Nous continuons. Plongeant son regard au-delà des choses visibles, le patriarche se cramponne à la parole divine et se dit que le Tout-Puissant a le pouvoir même de ressusciter un mort. Lui seul, Dieu seul, comprend la grandeur du sacrifice de ce Père qui voue son Fils à la mort. Cette dernière phrase appelle à notre réflexion, frères et sœurs. Dieu seul comprend la grandeur du sacrifice de ce Père qui voue son Fils à la mort. Donc, lorsque nous voyons l'expérience d'Abraham, de cette marche vers le sacrifice de son Fils chéri, et que nous ressentons le supplice que requiert un tel sacrifice, lorsque nous ressentons ça dans notre propre expérience, et que nous voyons à quel point cela met tous les nerfs de notre être en tension, telle la mort exigée et immense, nous avons un aperçu dans les douleurs de Dieu. Donc, Dieu suscite une expérience, nous appelle à une expérience qui est comme la mort même, et dans la douleur, la profondeur de cette mort, là, au moment où cela fait mal le plus, il nous dit que lui seul comprend la grandeur d'un tel sacrifice. Et ainsi, nous ne sommes pas seuls dans le sacrifice, et un sacrifice immensément plus grand est présenté à nos cœurs en douleur. Nous continuons à la page 130, paragraphe 2. Désirant que personne sauf l'œil de Dieu ne soit témoin de la scène finale, Abraham ordonne aux serviteurs de demeurer en arrière. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Le bois est placé sur Isaac, la future victime. Le père se charge du couteau et du feu. Et ils s'acheminent tous deux en silence vers le sommet de la montagne. Le jeune homme, qui, depuis quelque temps, se demande où l'on prendra une offrande, si loin du troupeau, se décide à parler. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Ces deux mots, mon père, qui perce le cœur du vieillard. Vont-ils le faire chanceler dans sa résolution? Et vous voyez, frères et sœurs, dans cette expérience de sacrifice, Dieu permettra que des paroles vous perçant le cœur ou des expériences en parallèle vous percent le cœur pour mettre à l'épreuve votre résolution. Et l'ennemi vous tentera de penser et de croire que la providence de Dieu est en train d'annuler sa demande, son appel au sacrifice. C'est très important que nous discernions cela. Parce que si nous continuons dans la parole de Dieu et dans l'épreuve de la purification, cela va nous arriver à un moment ou à un autre. Cela fait partie de ce blanchissement, de cette purification, de cette épreuve. Nous continuons. Va-t-il se libérer de son secret? Non, pas encore. Mon fils, répondit-il, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ensuite, ils arrivent au lieu désigné et ils bâtissent l'autel et Abraham révèle à Isaac ce qu'il doit faire. Et Isaac n'offre pas de résistance. Il a appris à obéir avec abandon et confiance et il acquiesce avec une entière soumission. Et maintenant, nous terminons notre lecture dans page 131, paragraphe 1. Et maintenant que les derniers gages d'amour ont été échangés, que les dernières larmes ont coulé et qu'une dernière fois ils se sont embrassés, le père lève le couteau qui doit égorger son fils. Mais son bras reste paralysé. Du ciel, une voix lui crie « Abraham ! Abraham !» Il répond promptement « Me voici !» Et la voix de l'ange continue « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu puisque tu n'as pas refusé ton fils, unique. Dieu a arrêté la main d'Abraham lorsque c'était comme fait. Et je veux que nous considérions, frères et sœurs, que Dieu a arrêté la main d'Abraham parce que dans cette expérience, il voulait apprendre une autre leçon à tous, à l'univers du ciel et à tous les hommes de la terre. Une leçon qui préfigurerait la mort de Christ. Mais pour Abraham, le sacrifice était fait. Et dans notre expérience, étant donné que Dieu n'a pas nécessairement besoin de préfigurer, de nous donner une illustration de la mort de Jésus-Christ, Est-ce juste de penser qu'il retiendra notre main, notre bras? Je vais laisser ce point d'interrogation et laisser chacun d'entre nous considérer à mesure que nous buvons la parole de Dieu, si Dieu ne désire pas vraiment de nous un sacrifice complet. Serait-ce agréable pour nous de donner un sacrifice incomplet? Ce qui est agréable à Dieu, c'est une offrande pure et sans tâche. Et potentiellement, c'est ce qu'Abraham a offert à Dieu. Simplement, Dieu a choisi de garder Isaac en vie. Il avait une leçon à donner qui était celle de Christ et pas celle de la résurrection. C'est important que nous gardions cela à l'esprit pour ne pas être trompés par les insinuations de l'ennemi qui tente nous faire croire que nous sommes victimes d'une hallucination. Nous voulons maintenant lire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Par la foi, Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut éprouvé et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est une sorte de résurrection parce que pour Abraham ainsi que pour Isaac, l'acte était comme fait et accompli. Et il a reçu Isaac comme par une sorte de... Il a recouvert Isaac comme par une sorte de résurrection parce que pour Abraham, c'était comme si Isaac était mort. Et donc pour Abraham, Isaac était mort et donc Isaac vivant était comme Isaac ressuscité. Et ce n'est pas juste Abraham, parce que les anciens, par cette foi, ont obtenu un bon témoignage. Et à travers la parole de Dieu, nous recevons ce témoignage et nous tirons des leçons à salut, pour notre salut, pour notre purification et notre perfection. Abraham n'était pas parfait, il avait manqué d'être parfait dans sa foi par ses erreurs, notamment par le fait d'avoir conçu un fils avec Agar, Ismaël. Il avait donc eu besoin d'une épreuve, cette épreuve du sacrifice d'Isaac. Et si notre foi n'est pas parfaite, alors nous avons besoin d'une épreuve dans la similitude du sacrifice d'Isaac qu'Abraham a été appelé à faire. cet héritage de la vraie foi, la foi qui se révèle par les œuvres, cet héritage que les patriarches nous ont laissé, c'est l'appel de Christ aux disciples, à ceux qui veulent lui obéir et lui être agréable. Cet appel, nous le lisons, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? » En voulant sauver notre vie, la conserver, la garder proche de notre sein, en réalité, nous perdons cette vie. La vie spirituelle s'échappe de nous, nous quitte, tandis que nous cherchons à nous agripper à notre sens charnel de ce qui donne un sens à notre vie. Et le Sauveur nous appelle au renoncement, comme lui a renoncé, à nous charger de la croix, comme lui s'en est chargé toute sa vie, pour que l'on puisse le suivre. C'est ça, suivre le Sauveur. Pour suivre le Sauveur, il faut obéir à cette injonction. Si nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas disciples. Mais si nous sommes disciples, alors nous traversons cette expérience de purification. Et quoi qu'elle semble anormale à la chair, elle est due, elle est nécessaire et elle crée un bien en nous, la sainteté. Elle nous mène à la sainteté. Elle évacue de notre cœur les scories, la potasse, les imperfections. Elle les évacue, cette expérience de purification a évacué du cœur d'Abraham son attachement charnel aux choses de cette vie, et notamment à Isaac. Son attachement selon la chair a été évacué pour que renaisse en son âme son attachement à Isaac du point de vue spirituel et élevé et noble. Et de la même manière, Jésus nous appelle à désirer la vie qui est en lui. Il nous dit à un autre endroit, « Car je suis venu pour leur donner la vie en abondance. » La vie en abondance se trouve dans la mort totale de notre moi, le renoncement total, le port de la croix. Et il dit, quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, par amour pour moi, la trouvera. Il la trouvera. Et nous lisons à un autre endroit que Abraham a désiré voir le jour de Christ. Et en effet, il l'a vu et il s'est réjoui. Il a trouvé la vie dans ce sacrifice. dans cette mort totale de toute son âme, ce sacrifice de tout ce qui lui semblait donner un sens à sa vie, il a trouvé la vie en abondance et il s'est réjoui. Il a vu la croix de Christ de ses yeux spirituels. Il a ressenti et il a aussi vu concrètement, d'une manière concrète dans son expérience, la croix de Christ. Pour terminer, nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 3, au verset 7 à 10. Et donc, à la vue de toutes ces choses qu'on a considérées aujourd'hui, de cet exemple qui nous a été légué dans Abraham et qui véritablement n'est autre qu'une illustration de la vie, de ce qui donne la vie aux chrétiens, en ayant considéré tout ça, on trouve maintenant ces paroles. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je le connaisse, Christ, et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est notre appel. Et c'est la bénédiction de ceux qui répondront à cet appel de connaître Christ, comme Abraham a découvert et connu Christ. L'efficacité de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Conforme. On ne nous conforme point au monde, mais en nous conformant à Jésus dans sa mort, en faisant la même expérience qu'il a faite, en communiant avec lui dans ses souffrances, pour que l'on gagne Christ, gagner Christ. C'est un trésor. Il sera notre très grande récompense, notre bouclier, notre plaisir, notre satisfaction. Il nous appellera à renouveler cette réalisation. Et si nous n'avons pas fait cette réalisation, il permettra que des afflictions viennent purifier notre être pour que nous le connaissions. La communion de ses souffrances, l'efficacité de sa résurrection, pour connaître et ressentir et faire l'expérience de l'efficacité de sa résurrection, il faut d'abord être conforme à lui dans sa mort. Et nous y trouverons la joie. La joie de la résurrection des morts. De vivre. C'est non pas moi qui vis maintenant, je suis crucifié en Christ, mais c'est non pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puisse Dieu nous aider à nous souvenir de ces choses et à les regarder sans cesse comme précieuses à nos yeux, à faire comme l'apôtre, à les considérer, considérer toutes les autres choses qui se présentent à nos affections comme une perte pour l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne au cours de la semaine qui suit. Amen.